Bonjour et bienvenue au deuxième atelier des créateurs d'infos. Vous êtes des centaines à nous rejoindre du monde entier. Je suis Emmanuelle Célibat, je suis journaliste d'enquête et je suis enchantée de vous accueillir à nouveau. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu nous voir le premier atelier la dernière fois, c'est une série pour les nouveaux créateurs d'infos qui ont envie de faire grandir leur plateforme sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de la stratégie du contenu. Alors que si vous avez déjà votre chaîne ou que vous soyez sur le point de la créer, vous êtes au bon endroit. Et comme la dernière fois, dites-nous bonjour dans la boîte de chat de commentaires à droite de la vidéo. D'abord, on va voir où on en est dans le programme. Ceci, c'est le deuxième atelier de la série de 6 où on va parler. Dans le premier, on a parlé des bases de la construction de votre chaîne, comment définir votre mission. Si vous avez raté le premier atelier, ne vous en faites pas, vous pouvez le rattraper sur l'onglet à la demande de la plateforme. Vous souvenez du défi qu'on vous a lancé à la fin du premier atelier, commencez votre nouvelle chaîne. Et j'espère que beaucoup d'entre vous ont relevé le défi. Et si vous l'avez fait, envoyez-nous le lien pour qu'on puisse voir ce que vous avez fait. Aussi, vous pouvez aussi placer vos questions dans les questions à droite de la vidéo, dans la boîte à questions à droite de la vidéo. Et maintenant, je vais vous présenter ma coprésentatrice aujourd'hui, Nicolette Scott. Bonjour Nicolette, bonjour Emmanuel, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Nicolette, vous dirigez les efforts de partenariat pour les plus grands éditeurs de nouvelles numériques de YouTube. Vous nous expliquez ce que ça signifie exactement? Oui, je m'attache à aider les partenaires à créer un contenu de la plus haute qualité possible tout en développant des activités durables sur la plateforme. Je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de stratégie de contenu sur YouTube. OK. Si vous étiez avec nous pendant le premier atelier, vous savez qu'on a parlé un petit peu des quatre piliers de la stratégie de contenu. Les voici sur votre écran. On va continuer à parler de ces quatre piliers aussi au cours de cet atelier, puis dans le troisième, dans quelques semaines. Et aujourd'hui en particulier, ce qu'on va faire, c'est parler de comprendre votre public, installer votre matériel et trouver le format qui vous convient. Et quand on aura fini de parler de la planification, on parlera un petit peu aussi de la présentation et de la publication de votre contenu. Et rappelez-vous de l'aventure, de votre aventure en tant que créateur, ça ne va pas être quelque chose de linéaire. À mesure que vous arrivez à chaque étape, vous vous adapterez, vous repartirez peut-être un petit peu en arrière pour changer ce que vous avez fait dans le passé. Et c'est un des meilleurs aspects de publier sur YouTube, c'est le retour instantané qu'on obtient et qu'on sait tout de suite ce qui marche, ce qui ne va pas. On a tellement d'informations pour vous aujourd'hui, j'espère que ça va vous inspirer à créer. Alors commençons pour la première partie de l'atelier d'aujourd'hui, la stratégie de contenu. Et je vais passer la parole à Nicolette pour ça. Merci, Emmanuel. Donc, dans cette première partie, on va parler de comment comprendre votre public. Et je vous parlerai de quelques outils que vous pouvez utiliser pour améliorer votre expérience sur YouTube. Avant de commencer, c'est important de comprendre comment la découverte fonctionne sur YouTube et comment le public découvre votre contenu. L'onglet de source de trafic sur les bases d'analyse sur YouTube, vous pouvez trouver dans quatre endroits. D'abord, les vidéos suggérées. Ce sont les vidéos qui sont sur le côté droit de la page de visionnage, sous la vidéo en cours ou sur la prochaine vidéo en lecture automatique. Les fonctionnalités de navigation, ça vous renseigne sur le trafic généré par les flux d'accueil, les tendances, les abonnements. Et les recherches YouTube révèlent les requêtes de recherche qui ont conduit les internautes vers vos vidéos. Et puis, il y a le contenu que les gens trouvent lorsqu'une nouvelle vidéo est rendue publique grâce aux notifications. Mais bien sûr, c'est surtout utile si vous avez déjà une bibliothèque de vidéos sur la chaîne. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de commencer par des choix de mots-clés, les tendances. Vous allez maintenant voir apparaître à l'écran l'outil Google Trends, les tendances Google, qui peuvent vous aider à identifier les tendances plus générales en matière de mots-clés, ceux qui sont les plus populaires, où ils se trouvent. Vous voyez comment l'intérêt pour un mot-clé évolue dans le temps ou diffère selon les recherches sur le web, les activités ou YouTube. Et Google, les tendances YouTube va vous donner, vous aider à choisir les termes qu'il faut pour le public que vous recherchez. Et en créant votre chaîne, c'est une aventure d'expérimentation. Et ça, c'est un outil clé pour découvrir pas seulement ce que vos publics veulent, mais ce que vous voulez créer en tant que créateur. Enfin, pour vraiment comprendre votre audience, YouTube dispose de divers autres outils. On a déjà examiné les sources de trafic, mais aussi il y a les impressions, qui mettent en évidence le nombre de fois que vos vignettes vidéo sont affichées sur YouTube. Le taux de clic vous indique quel pourcentage des impressions sur YouTube se sont transformées en vues. Views, les vues, c'est évidemment le nombre de vues que vous obtenez. Mais n'oubliez pas que nos données peuvent être un peu retardées ici parce que nous devons nous assurer qu'il s'agit de vues humaines et non de robots. Et enfin, le temps de visionnage, c'est-à-dire le temps pendant lequel les gens continuent à regarder une vidéo. Par opposition au fait de simplement cliquer sur la vidéo et puis de l'abandonner très vite. Donc c'est la fin de la première partie de la planification. Pour la deuxième partie, je vais laisser la parole à Emmanuelle parce qu'elle a vraiment une réelle expérience de la création vidéo. Et elle va nous parler un peu de ce qu'elle a appris. Merci Nicolette. Bon, je vais vous dire un petit secret. En fait, je fais pas les choses tellement différemment de quand j'ai commencé. Et pour préparer le matériel, c'est un bon exemple. En fait, tout ce dont vous avez besoin pour commencer à faire des vidéos, c'est quelque chose d'aussi simple que votre téléphone. Mais quand même, je vais vous donner quelques conseils. Pensez à votre talent, au talent. Parce que la vidéo va présenter et représenter votre institution et ce que vous représentez. Si vous voulez créer un contenu inclusif, assurez-vous d'inclure des personnes d'origine diverse à différents stades de leur carrière. Quand vous choisissez votre plan, pensez à la lumière. Utilisez la lumière naturelle. Évitez les ombres. Essayez d'obtenir un arrière-plan avec de la profondeur de champ, c'est-à-dire pas contre un mur. Et quel que soit l'appareil que vous utilisiez, essuyez l'objectif, choisissez les paramètres de qualité les plus élevés sur celui-ci et placez-le horizontalement sur un service fixe. Et si c'est un téléphone, n'oubliez pas d'activer le mode ne pas déranger. Et ensuite, quand vous êtes prêt pour l'action, cadrez le sujet avec ses yeux dans le tiers supérieur de la vidéo. Et si vous vous filmez vous-même, n'oubliez pas de regarder l'objectif de la caméra, pas vous-même. Voilà quelques-unes des bases qui vous mèneront bien. Je recommande aussi de regarder les différents autres chaînes YouTube pour voir comment ils cadrent leurs vidéos. Pensez à la conception de production. Un bon design, ça va avoir des couleurs vives, un contraste élevé, de la profondeur de champ et aussi des visuels intéressants. Vous n'utiliserez peut-être le même décor encore et encore, mais vous pouvez toujours le rendre surprenant et polyvalent. Les créateurs utilisent également des visuels intéressants pour leurs intros en direct à la caméra ou des plans larges, des gros plans de leurs invités en veillant à ce que les choses restent regardables. Un bon son, ça fait là une différence énorme. Et en fait, le public pardonne davantage les erreurs de caméra et d'éclairage qu'un mauvais son. Alors, pour éviter les faux pas sonores, tenez compte de l'audio lorsque vous choisissez là où vous allez faire vos enregistrements. Veillez à ce que le bruit ambiant ou l'acoustique, comme un écho, n'entrave pas votre capture audio. Les smartphones filment des vidéos de grande qualité, mais le son n'est pas aussi bon. Sûrement besoin d'un microphone, d'un micro externe pour avoir un son de qualité équivalente. Revenez après l'atelier, regardez la vidéo de la Creator Academy, elle explique toutes les bases de la création d'une expérience audio et vidéo fantastique. Donc, une chose dont il ne faut pas s'inquiéter, c'est de laisser le public voir le vrai vous. C'est ça qu'ils veulent. L'accessibilité, l'authenticité. Et c'est pour ça que le contenu personnel est le meilleur sur YouTube. Alors, ne vous souciez pas de la distance ou de la mystique. Prenez la caméra et adressez-vous directement à votre public et racontez votre histoire. Vous avez des imperfections? Ce sont vos amis. N'ayez pas peur de laisser vos vidéos un peu imparfaites ou un peu brutes. En termes de production. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Et restez toujours ouvert à la conversation avec votre public, que ce soit par le biais de flux en direct, de transmission en direct ou dans les commentaires. Ça renforcera le lien communautaire. Pour la création de vidéos, ça demande du temps et des ressources. Alors, quand vous pouvez le faire, faites-le en gros, faites-le en grande quantité. Lorsqu'une journée de production, soyez malin et obtenez plusieurs vidéos, par exemple, plusieurs histoires. Par exemple, si vous faites des interviews d'experts, essayez d'en programmer deux ou plus le même jour. Vous pouvez aussi penser de manière un peu plus flexible quand vous enregistrez des séquences supplémentaires lors de différents événements. Soyez créatif, réfléchissez à la manière dont vous pouvez les présenter pour obtenir plus de contenu à partager. La troisième partie de notre section planification, c'est sûrement la plus longue, et ce pour une bonne raison. Parce que la gamme de vidéos disponibles, c'est énorme. Et tout comme les possibilités qui s'offrent à vous en tant que créateur d'informations. Donc, pour nous guider dans la recherche du bon format pour votre contenu, je vous remets entre les mains experte de Nicolette. Merci Emmanuel. Beaucoup d'entre vous sont au début de votre aventure sur YouTube. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder quelques exemples de formats, ça vaut vraiment la peine. Voyez quel format vous attire en tant que créateur et pensez au format que votre public appréciera. Mais surtout, commencez à réfléchir à la manière dont vous expérimentez quelques-uns de ces formats afin de vous familiariser avec l'idée de les produire. N'oubliez pas qu'en tant que créateur, vous disposez d'une grande souplesse dans la manière de raconter votre histoire, que ce soit par le biais de contenus courts ou plus longs. Comme vous le verrez dans ces exemples, il existe un large éventail de styles de production. Il y a des journalistes comme Katie Couric qui fait des interviews en direct sur Zoom ou Instagram, qu'elle met ensuite sur sa chaîne YouTube. Il y a des vidéos explicatives comme celle de Johnny Harris et Cleo Abraham qui éduquent le spectateur en plongeant dans divers sujets d'actualité. Ou que vous vous situiez sur le plan créatif lorsque vous commencez à prendre des décisions concernant le contenu, la fréquence à laquelle vous souhaitez le produire, nous vous recommandons de garder cette structure simple à l'esprit. Comme vous pouvez le constater, nous avons divisé les choses en contenus mensuels de trois types. On a les contenus vedettes, c'est-à-dire les vidéos hautement produites ou très médiatisées. Ensuite, on a les contenus hebdomadaires. Ils sont des formats épisodiques et des diffusions en direct, programmées régulièrement. Et enfin, le contenu atemporel, moins fréquent, qui vise à répondre aux facs, à décrire des idées ou à plonger dans l'actualité au fil du temps. On a beaucoup parlé de ces différents parlers, mais on va en parler plus précisément de chacun d'entre eux. Et c'est vraiment une bonne idée de revenir après l'atelier, de regarder les vidéos que nous vous recommandons ici sur ces diapos. De manière générale, un bon mélange de type vedette, hebdomadaire et atemporel complétera votre chaîne. Ceci dit, il n'y a pas de règle unique en matière de structure et vous pouvez décider de faire des choix en fonction de l'orientation de votre chaîne, de la manière dont vous souhaitez impliquer vos téléspectateurs. Alors, commençons par le contenu vedette. Il s'agit d'un élément central de la marque et de l'identité de votre chaîne qui est étroitement lié à votre pourquoi, à votre mission. Généralement, c'est quelque chose de moins fréquent, peut-être mensuel, et sa production demande plus d'efforts. Ça s'articule souvent autour d'un moment précis, comme une élection politique, un moment créé par soi-même, comme une collaboration. Le contenu vedette est de haute qualité, a un attrait pour le grand public et vise un public aussi large que public. L'objectif ici est de créer un mouvement de visibilité important en convertissant un grand nombre de spectateurs occasionnels, ceux qui ne connaissaient même pas forcément notre chaîne, en abonnés à long terme. Examinons maintenant les différents types de contenu vedette. Donc, il y a une approche qui consiste à penser à une narration en profondeur par le biais d'un journaliste d'investigation ou d'un documentaire pour que votre chaîne se distingue vraiment de la concurrence. Ces moments vedettes permettront à votre chaîne de rester pertinente. Une série de documentaires ou d'enquêtes peuvent avoir un impact considérable sur votre public et une histoire à épisodes multiples fera revenir les gens. N'oubliez pas que ces vidéos prennent du temps à produire, alors programmez avec détermination. Avant de les programmer sur la chaîne, essayez d'anticiper en utilisant des outils promotionnels, par exemple avec des aperçus des coulisses dans les histoires et dans les mises à jour dans la communauté. Vous pouvez également utiliser ces séquences pour créer du contenu d'approfondissement. Ce contenu est destiné à un public de base qui veut en voir plus.
La collaboration avec d'autres chaînes, ça peut être très utilisé. La collaborateur, la personne la plus populaire, n'a peut-être pas la meilleure collaboration pour vous. mais peut-être celui qui a l'audience que vous souhaitez, pensez aux opportunités uniques que vous offrez aux autres chaînes et ils n'en auraient pas autrement. Il peut s'agir d'un expert dans un certain domaine, de votre public ou simplement de votre accès. Et assurez-vous que le contenu que vous créez est également destiné à votre chaîne et pas seulement à votre collaborateur. La réalisation de vidéos étonnant, fascinant que les deux chaînes peuvent publier permet de tirer parti de ce qui constitue une puissante opportunité promotionnelle. Vous pouvez aussi créer une vedette d'une forme de type vedette pour votre chaîne en utilisant un format d'information du type explicatif avec un lien à la culture pop pour un large public. Là encore, choisissez avec soin. Assurez-vous que le lien avec la culture pop a un sens pour votre chaîne et votre public. Si vous nagez trop loin de votre chaîne, vous perdez votre temps sur une vidéo qui n'aboutira pas, voire qui aurait même un impact négatif. Oubliez que la culture populaire est liée à l'actualité, mais qu'elle ne doit jamais glisser vers le ragot. Votre objectif est de créer un contenu authentique autour des grands moments, des grands sujets, sans sacrifier votre intégrité. Voilà. Ensuite, examinons le contenu hebdomadaire. Nous pensons qu'il s'agit d'un complément à votre contenu vedette, un moyen court et rapide de communiquer régulièrement avec votre base d'abonnés, pendant que vous développez votre contenu plus long, le contenu central ou hebdomadaire. Et le pain et le beurre de votre chaîne, il s'agit d'un contenu durable et ciblé qui s'adresse directement aux goûts et aux attentes de vos abonnés. L'audience est constituée de votre base de données existante, ainsi que des personnes qui regardent et qui ne sont pas encore abonnées. L'objectif ici est de proposer un contenu régulier et qui incite à votre public à revenir. Cela fournit également une banque de vidéos que les nouveaux spectateurs peuvent explorer après s'être abonnés. Un petit conseil, programmez des épisodes hebdomadaires à une heure fixe de la journée et de la semaine et partagez le programme dans vos vidéos centrales et hebdomadaires pour que les gens sachent quand revenir pour la suite. Souvenez-vous, YouTube n'est pas la télé. Les spectateurs veulent voir le vrai vous, sans filtre. Ils aiment la nature bidirectionnelle de la plateforme. C'est pour ça que les questions-réponses sont l'un des moyens les plus faciles de communiquer avec votre communauté. Mais vous devez le faire d'un style dans lequel vous êtes à l'aise. Si vous voulez d'abord passer les questions au crible, choisissez une méthode à la demande. Si une discussion directe en aller-retour vous convient mieux, vous pouvez aussi opter pour la séance de questions-réponses en direct. Et la fréquence à laquelle vous le faites peut varier selon le format du hebdomadaire. Les questions-réponses peuvent être une série que vous faites chaque semaine ou bien faire par mois. Ou même moins fréquent, mais peu importe, choisissez simplement un style cohérent que vous trouvez durable et que vous pouvez soutenir dans le temps. Les podcasts sont des conversations longues et non structurées sur des idées, des sujets et des histoires. Il peut s'agir d'excellents formats, d'une basse production et facile à produire, encore et encore. La clé, malgré leur nature non structurée, est de trouver un style et un objectif cohérent. Décidez, par exemple, si vos podcasts s'épanchent en profondeur sur des histoires spécifiques, ou s'il s'agit d'entretiens, des interviews avec des experts ou des personnalités. Et pour attirer un nouveau public vers ces vidéos plus longues, mettez en ligne des clips best-of. Le sujet ciblé peut le découvrir facilement comme ça. Le public a une idée de ce qui se passe dans vos podcasts sans avoir à y se consacrer trop de temps. Vous pouvez utiliser ou utiliser des appels à l'action dans les vidéos et des écrans afin de les diriger vers le podcast complet. Lorsque vous créez le titre de ces vidéos, il peut être utile de commencer par le sujet de l'émission et après rajouter le nom de votre podcast. Les mises à jour et les récapitulatifs des infos hebdomadaires sont un excellent moyen de communiquer les dernières nouvelles sur le sujet d'histoire actualité. Ce format convient également à la discussion des domaines d'intérêt connu, inconnu, les histoires médicales qui sont dans le courant dominant, mais qui sont peut-être pertinentes à votre domaine d'intérêt. Avec ces formats, vous devez faire en sorte que votre public vous trouve et que vous apparaissiez autour des vidéos sur un sujet similaire. La recherche sera donc essentielle. Faites attention aux mots et aux phrases que vous utilisez dans votre présentation. Et si vous élaborez une série, pensez à marquer le contenu avec une vignette vers la fin de vos titres. Un autre format populaire sur YouTube et une manière différente de le présenter et de présenter les mises à jour des infos sont les listicles vidéo. L'une des raisons pour lesquelles les listes sont si efficaces, c'est qu'ils fournissent un contexte. Le public comprend facilement ce qu'il regarde. Le titre et la mise en place indiquent clairement l'objectif et la manière dont chaque élément s'y inscrit. Et parce qu'une liste est claire quant au nombre d'éléments, elle garde le spectateur avec une carotte. Ils s'accrochent à votre vidéo parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont recevoir et combien ils vont recevoir. Les cycles sont populaires hein, car ils combinent des informations à grignoter avec une structure plus longue. L'assemblage de petits éléments permet de créer une vidéo de plus longue avec un temps de visionnage plus long et une forte rétention. Donc voilà pour le contenu hebdomadaire. Nous allons parler maintenant du contenu atemporel. Vous pouvez aussi choisir de créer quelque chose de plus général et plus durable. Le contenu atemporel est plus fréquent que le contenu vedette, mais moins fréquent que c'est le contenu hebdomadaire. Son contenu est axé sur des questions spécifiques. Par exemple, qu'est-ce qui est le NHS aux États-Unis ou comment fonctionne le Green New Deal? Peut s'adresser au public large et bien souvent il est regardé par un téléspectateur occasionnel qui ne s'intéresse pas normalement à votre chaîne. L'objectif de contenu atemporel est de fournir des vidéos permanentes qui gagnent continuellement des spectateurs et qui les convertissent régulièrement à des abonnés. Un conseil, regardez ce qui est à la mode sur Google Trends, sur les tendances, pour savoir quoi créer ensuite? Vous êtes probablement familier avec ce format populaire de YouTube. C'est un élément de base de la plateforme. Ce sont des vidéos explicatives, des vidéos qui approfondissent et qui plongent dans un sujet, une histoire, une même liste. Un animateur explique le sujet et fournit à un public curieux un contexte et des informations solides. Vous verrez que certains formats les plus réussis sont liés à des événements et des questions d'actualité. Ces vidéos exploitent le trafic de recherche, mais elles restent pertinentes au fil du temps, car ces événements ou ces questions refont surface dans l'actualité. Essayez de développer des vidéos explicatives sur des sujets à caractère permanent. Vous pouvez trouver les sujets dans les commentaires de votre public en consultant Google Trends et YouTube Analytics, les analytiques de YouTube. Et pour le dernier format des contenus atemporels, regardons les courts-métrages de YouTube, les YouTube Shorts. Cette nouvelle format de vidéos courtes est destinée aux chaînes qui souhaitent tourner des vidéos courtes et accrochantes en utilisant uniquement leur téléphone portable. Pour qualifier comme short, la vidéo doit être verticale et ne pas dépasser les 60 secondes. Pour faciliter la découverte de vidéos, incluez le hashtag Shorts dans le titre ou la description. Notre système le recommandera sur YouTube. Est-ce que vous devrez le mettre sur la chaîne des Shorts ou sur votre chaîne existante? Si les Shorts s'alignent sur votre contenu de long format, vous pouvez les garder sur votre chaîne principale, mais vous pouvez aussi prévoir de créer une chaîne juste pour vos Shorts. Donc, comment cela est affecté par les notifications? Bon, non, les téléspectateurs ne sont pas notifiés chaque fois que vous publiez des Shorts. Si vous vous demandez quoi créer, rappelez-vous que les shorts célèbrent l'aléatoire, le réel et le non filtré. Si vous avez du mal à vous lancer, demandez-vous quel est le contenu que vous aimez et comment vous pouvez vous l'approprier. Les clips d'actualité, les explications tronquées sont des exemples de courts-métrages, des shorts. Expérimentez et voyez à quoi répond votre public. Tenez en compte que ça peut prendre un peu de temps avant que vos shorts trouvent une audience, un public. Prenez un peu de temps pour cette expérience. Voilà, c'est tout. Donc, j'avais planifié de partager avec vous aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est beaucoup. Et prenez un peu de temps pour regarder toutes les diapos et les vidéos. Les prochaines pas sera regarder un peu plus la présentation et la publication. Quand il s'agit de la présentation de votre contenu, il y a trois éléments que vous devez tenir en compte. D'abord, le titre. Le titre doit être clair, descriptif, précis et succinct. Deuxièmement, les vignettes. Les vignettes doivent être en ordre de résolution et illustrer clairement ce dont il s'agit. Troisièmement, votre description. La description doit être le plus descriptive possible. Les deux premières lignes sont les plus importantes. Essayez d'utiliser les données relatives aux impressions et au taux de clics dans YouTube Analytics pour découvrir ce qui fonctionne pour votre public. Et pour de meilleurs résultats, créez votre titre et votre vignette pour que ça marche ensemble. Ils peuvent être très efficaces et déterminer si quelqu'un regarde vraiment votre vidéo. Quand vous pensez au titre et aux vignettes, soyez précis. Assurez-vous qu'ils soient une représentation fidèle de la vidéo. Soyez concis. Les titres ne doivent pas dépasser 70 caractères 70 caractères et doivent figurer au début. Soyez recherchables. Il faut inclure des mots-clés. Et bien sûr, le titre doit être attrayant. La combinaison des titres de la vignette doit inciter le spectateur à découvrir le contenu. Vous pouvez également les utiliser pour différencier visuellement votre contenu. Nous savons que 70% du contenu est regardé sur le téléphone portable. Nous vous recommandons de passer un peu de temps à consommer du contenu sur YouTube pour voir comment vous pouvez vous différencier du reste sur la page de recherche. Le public qui vous fait confiance recherchera votre logo pour trouver votre contenu autour de sujets d'actualité importants. Votre public sera également en mesure de poursuivre une session de visionnage si vous construisez des titres qui relient les séries ou les sujets entre eux. Et vous pouvez aussi développer des modèles de vignettes pour le sujet ou le genre. Vous pouvez voir sur cette diapositive quelques bons et mauvais exemples. Entouré à gauche, le logo de CNN et du Times sont bien visibles et faciles à repérer. Ces deux organisations ont investi beaucoup de temps pour construire leur marque et la confiance de leur public. Lorsque les spectateurs voient ces logos, ils pensent: ah bon, voilà, des infos fiables. Regardez maintenant le cercle en bas à droite. Ce n'est pas facile de découvrir à qui appartient cette vignette. La vignette n'a pas de logo, il n'y a aucun moyen de facile de reconnaître une marque. Sur cette diapositive, voilà quelques considérations visuelles simples pour la création des vignettes. La diapo vous indique où éviter de mettre des images importantes. On demande de superposer les textes et vous donne quelques conseils pour l'image principale. Une image lumineuse, bien contrastée, claire, qui représente fidèlement le contenu. Et finalement, pour la présentation, pensez aux vignettes type. Un moyen simple mais efficace de différencier les contenus à rotation rapide. Ils sont excellents parce que, car une fois que vous créez un modèle, un éditeur peut rapidement insérer une nouvelle photo et mettre à jour le texte de la superposition. Et c'est parti pour YouTube. Voilà. Avant de commencer, je veux partager quelques réflexions sur la publication. C'est très important d'avoir un calendrier de YouTube et de penser aussi. Et de réfléchir au travail que vous faites déjà. La cohérence et la durabilité est clé. La cohérence vous aide dans la procédure de planification. Ça aide à vos abonnés à comprendre ce que vous faites et pourquoi ils doivent s'abonner à vous. Respectez les calendriers de diffusion et en cas d'interruption du contenu, prévenez le public à l'avance. N'oubliez pas que cohérence ne signifie pas volume. Il est plus important de publier à la date prévue que de publier fréquemment. Quand vous êtes en train de développer votre plan de programmation, et les infos d'actualité est vraiment important. Mais en général, assurez-vous que votre contenu soit gérable. Les vidéos des grandes productions sont géniales, mais peuvent être très difficiles à maintenir. Trouvez donc un équilibre entre quantité et qualité que vous pourrez maintenir sur le long terme. Vous pouvez aussi peut-être réfléchir à la manière dont vous voulez publier votre contenu. Si vous voulez le publier en direct ou en avant-première, le direct est utile lorsque vous souhaitez avoir un engagement actif avec votre public. Avec les premières, l'audience regardera en temps réel, ils vont interagir dans un chat. Je vous encourage à réfléchir aux premières pour si vous voulez créer un moment spécial pour votre audience. Vous pouvez aussi améliorer votre publication, votre diffusion, en découvrant davantage votre public. Dans YouTube Studio, vous pouvez consulter les statistiques pour découvrir de nombreuses informations utiles, comme les nouveaux téléspectateurs et ceux qui reviennent, ce qui vous aide à planifier la stratégie des contenus. Fidéliser les téléspectateurs, par exemple, en créant un contenu cohérent ou expérimenter avec de nouveaux sujets pour attirer de nouveaux spectateurs. YouTube vous montre quand les spectateurs sont en ligne et c'est ce qu'ils ont regardé au cours des derniers 28 jours. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour développer votre communauté ou programmer une première ou planifier votre prochaine diffusion en direct. De même, autre vidéo que votre public a regardée rapporte sur les 7 derniers jours. Utilisez-les pour trouver des sujets pour de nouvelles vidéos et de nouveaux titres pour des idées de vignettes et des opportunités de collaboration. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments que vous trouverez dans leur net audience. Alors, jetez un coup d'œil. Voilà, ça c'est la fin d'avoir regardé en détail sur la stratégie de contenu. J'espère que cela vous a été utile et j'espère que vous pouvez trouver toutes les vidéos que nous avons partagées sur le site. Dernière chose avant de finir, quel est votre challenge pour la semaine? Cette semaine, on veut que vous expérimenter un peu avec les différents formats pour transmettre des infos, des façons, et on attend avec impatience pour voir ce que vous avez créé.
Merci Nicolas, c'était fantastique, tellement d'informations utiles et tellement détaillées. Et bien sûr, ça a généré beaucoup de questions de notre public. Alors, on va répondre à quelques-unes des questions du premier atelier, parce qu'on n'a pas eu assez de temps la première fois, d'accord? Alors, une des questions qu'on n'a pas eu, à laquelle on n'a pas pu répondre la dernière fois, c'était de Romauro du Brésil. Il se demandait comment les algorithmes de YouTube recommandent les vidéos. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur comment ça marche? Moi, ouais, je crois qu'il y a eu une autre question de quelqu'un d'autre au Brésil à laquelle je vais essayer de répondre en même temps. Donc, c'est une des questions les plus que je reçois le plus souvent ici à YouTube. Et je sais qu'on en parlera plus en détail pendant l'atelier numéro 4, donc je n'en parlerai pas trop en détail. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est la façon dont ça marche, c'est tout par la recherche et découverte. Donc, les choses clés dont on vient de parler, la présentation, comprendre votre public, ça va être vraiment très bénéfique pour aider le public à trouver votre contenu. Donc, ok. Donc, on va garder cette question. On va rester là pour cette question et y revenir à l'atelier 4. Une autre question de la dernière fois de Stéphanie aux États-Unis qui dit qu'elle a une chaîne YouTube depuis 2 ans. J'ai 250 abonnés. Je suis restée dans cette fourchette. Quel conseil pouvez-vous me donner pour m'aider à développer mon audience? Bien, tu peux sûrement témoigner là-dessus de la frustration parfois qu'on a quand on crée un contenu formidable et on a du mal à atteindre notre base d'abonnés. Mais là encore, avoir une stratégie cohérente, avoir une approche authentique auprès du public et savoir qui est ton public en regardant les données d'analyse en termes d'engagement, de durée moyenne de visionnage, tout ça. Ça peut aider et aussi pour aider. Autre chose qui pourrait aider, c'est regarder les tendances. Donc, les Google Trends, qu'est-ce qui est le plus populaire sur YouTube et ça peut nous aider si on s'aligne un peu plus sur ces tendances clés. Ouais, et aussi, je crois utiliser différentes plateformes. Peut aider le contenu à atteindre plus de spectateurs, n'est-ce pas? Je sais que ça m'a beaucoup aidé au début quand j'ai publié des clips et en interagissant sur diverses plateformes. Moi, je crois qu'il y a vraiment cette idée que YouTube ne veut pas utiliser d'autres plateformes médiatiques, mais c'est pas du tout vrai. Non, c'est pas du tout le cas. On veut vraiment vous encourager d'être ouverte à utiliser le public que vous avez sur les autres plateformes et à rejoindre et de cette façon de polliniser les uns les autres. Voilà. Alors maintenant, on va adresser quelques-unes des questions. Non, maintenant qu'on a répondu aux questions de l'atelier 1, on va répondre aux questions d'aujourd'hui. Donc, quel format semble être le plus populaire pour le contenu d'info sur YouTube? Ouais, en fait, il n'y a pas une réponse absolue. Je t'ai parlé un petit peu de Katie Couric, dont l'agenda de production est complètement différent que celui de Johnny Harris ou Cleo Abrams, mais pourtant tous les deux ont beaucoup de succès et ont beaucoup développé de vues et d'engagement. Donc il faut comprendre en tant que créateur ce qui marche pour vous, votre temps, vos ressources vous permettent de faire. Donc une fois que vous avez identifié ces éléments ainsi que ce que vous essayez d'accomplir, quelle est votre mission, à ce moment-là vous pouvez identifier plus facilement quel format vous correspond le mieux. Mais encore une fois, en pensant au contenu vedette, hebdomadaire, atemporel, réfléchissez à ce que vous pouvez faire de façon durable, hein. Ouais, j'aime bien les exemples spécifiques que tu nous as donnés. Ouais, ce serait bien d'aller les étudier de plus près. Donc, on repart sur les différents contenus. Donc, puisque ces trois contenus différents sont vraiment différents, est-ce que ce serait pas bien, pas mal d'avoir une chaîne plus qui centrait sur un ou l'autre de ces contenus? Ouais, diviser ses contenus sur différentes chaînes, qu'en penses-tu? Oh, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a de la place pour ces trois formats sur une même chaîne? Et où est-ce que ça peut un peu mélanger le public? Moi, je pense que ça marche très bien ensemble, ces trois formats différents. Ça peut être une stratégie très durable. Donc, tant que vous avez les ressources et que vous pouvez être cohérent dans votre approche, un bon mélange de ces trois formats peut être génial. Ouais, donc, aussi, une partie de ce format peut être les vidéos courtes, n'est-ce pas, qui vont toucher un public complètement différent. Ouais, absolument. On parle de plus en plus, on atteint un écosystème qui est de plus en plus multiformat sur YouTube. Donc, il y a des gens qui, bien sûr, qui regardent les vidéos plus longues, mais en fait, on a beaucoup d'appareils différents. C'est selon ce qu'on regarde sur notre télé, sur notre portable, on va voir des vidéos différentes. Donc, créer des vidéos différentes pour ces différents appareils. Ouais, créer des différents types de contenus, différentes longueurs, c'est pas vraiment nouveau. Ça existe depuis toujours. Et c'est depuis toujours, on regarde la télé comme ça, quand on regarde les chaînes de télé, d'une variété de contenus. Donc, c'est aligné avec cette idée. Donc, on continue parce qu'il y en a beaucoup de questions qui arrivent. Donc, je suis tout au début de ma chaîne. Est-ce que je devrais commencer avec les vedettes ou les contenus vedettes ou le contenu hebdomadaire? Bon, d'abord, il faut comprendre votre mission parce que l'authenticité, c'est vraiment le plus important quand on débute. Et tu peux sûrement en parler de ça. Il faut penser à ce qu'on veut accomplir et je dirais que le contenu hebdomadaire peut être un petit peu plus facile, qui utilise un peu moins de ressources quand on débute. Donc, arriver à comprendre quelles sont nos ressources, ce qu'on arrive à faire bien et se concentrer sur la qualité plus que sur la quantité. Donc, y commencer à expérimenter, c'est le plus important. Essayer les différents formats, voir ce qui marche le mieux pour vous et s'il le faut, vous adapter. Ouais, ça dépend aussi beaucoup du type de journaliste qu'on a. Donc, par exemple, Johnny Harris, au départ, il fait plutôt du contenu vedette. Et il voyage. Il y a aussi un journaliste français qui est Charles Villard qui fait des documentaires. Donc c'est aussi du contenu vedette. Donc c'est sa marque, c'est leur image de marque. C'est comme pour ça qu'on les connaît. Donc peut-être que ce serait utile de comprendre où sont vos talents, tout à fait, pourquoi vous voulez être connu. La prochaine question, je voudrais en savoir plus sur comment écrire mon titre, ma description et comment aller voir les données d'analyse pour voir ce qui fonctionne le mieux. Bon, pour écrire votre titre, votre description, ça semble des choses pas très importantes, mais en fait, elles le sont, très importantes. Donc, plus vous avez un titre qui se tient, une description vraiment descriptive, vous aurez beaucoup plus de succès en termes de taux de clic de vos vidéos. Donc, c'est vraiment quelque chose, je dirais que les données d'analyse peuvent être utiles à un niveau holistique pour comprendre ce qui fonctionne. Aussi voir la durée moyenne de visionnage des spectateurs. Si les gens cliquent sur une vidéo puis ne la voient pas, je la regarde pas jusqu'au bout, est-ce que c'est parce que le contenu ne correspond pas au titre et ils ont peut-être cru que c'était un piège à clic ou il y avait quelque chose qui manquait au niveau du contenu? Les données d'analyse, il y a beaucoup de choses à explorer. Là. Donc, vous aurez beaucoup de temps pour vous habituer à travaller avec ces données d'analyse YouTube, mais c'est vraiment un bon point de départ pour voir la durée moyenne de visionnage et aussi pour s'améliorer, pour écrire ces titres, pour faire de bons titres. Hein, et on pourra faire une classe, un cours entier sur cet exercice. Donc, avec quelle fréquence est-ce que je devrais publier? Est-ce que je dois publier au moins une fois par semaine, tous les jours? Quel est à mon rythme? En fait, ça dépend complètement du temps que vous avez et ce que vous pouvez faire. Je préfère qu'un créateur ne publie une fois par mois, mais le fasse de façon systématique, plutôt que de commencer à publier 5 fois par semaine et puis arrêter ou ralentir. Donc, C'est vraiment important de se faire un but réaliste, de se dire, bon, je vais publier toutes les 2 semaines et c'est réaliste pour moi. Mais de ton point de vue, je pense, comment tu as trouvé ton rythme, toi? Je crois que c'est un peu, il y a plusieurs choses. Je crois que la cohérence est vraiment importante, surtout si on l'annonce à son public, comme tu le disais, si pour tenir parole, n'est-ce pas? Mais aussi être réagir aux infos. Donc, par exemple, moi, je me concentre sur la désinformation et sur la vérification visuelle des infos. Donc, il faut que j'ai la capacité de m'adapter rapidement pour rester alignée avec ma mission. Et donc, c'est aussi important, on va, pour gagner son public, d'ajouter de la valeur à des moments importants. Et oui, je crois que le public vraiment apprécie vraiment ta voix authentique avec ce type de contenu. Je trouve ce type, ça marche vraiment très très bien. Les spectateurs aiment avoir une autre perspective qui ne sont pas les médias officiels. Donc c'est vraiment important de développer cette relation avec les spectateurs. On a des tas de questions. Comment est-ce que je peux dire si mes vignettes fonctionnent ou pas? Je reçois beaucoup cette question. Est-ce que tu recommandes de tester plusieurs versions? Tout à fait, ouais. Expérimenter, c'est vraiment très très important pour arriver, pour trouver le succès sur YouTube, je vous dirais. Je vous conseille de tester plusieurs versions. Je suppose que quand tu as commencé, est-ce que tu publiais des vignettes qui ne marchaient pas si bien que ça? Est-ce que tu les as un peu améliorées? Ouais, c'était vraiment pas du tout parfaite au début, je veux même pas les regarder. Et puis j'ai commencé à utiliser Canva pour les concevoir, pour concevoir un modèle. Et chaque fois, c'est beaucoup plus rapide de le passer une demi-heure, je passe plus quelques minutes. Donc j'ai pris du temps pour arriver à un look, à une image de marque que j'aimais. Et puis aussi de temps en temps, je reçois un message d'un partenaire qui me dit, YouTube, qui me dit, ah, c'est peut-être pas la meilleure photo que tu puisses trouver pour ça, ou c'est un endroit, c'est au mauvais endroit. Donc, on continue toujours à s'améliorer, il y a toujours de la place pour s'améliorer. Ouais. Et je regarde aussi, j'étudie les chaînes des autres, ouais, très bon conseil, étudier les chaînes des autres, regardez ce que les autres font. On a partagé quelques exemples tout à l'heure sur Times et CNN, donc voyez ce qui marche bien sur les autres chaînes, essayez de, bien sûr, de la faire vôtre et de rester authentique, mais ouais, très très bon conseil, merci. Ok, est-ce qu'on a le temps de répondre à une question? Ouais. Est-ce qu'il y a un moment spécifique qui est préférable pour publier, pour télécharger des nouvelles? Ouais, c'est une question qui revient beaucoup. Et en fait, je pense qu'au bout du compte, c'est le contenu qui est clé pour attirer les spectateurs, plutôt que l'heure à laquelle on publie. Donc, il n'y a pas vraiment de données qui indiquent que quand on publie, quand on télécharge à une heure spécifique, le lundi à 8h du matin, qu'on va trouver plus de, on va toucher plus de public. Non, je pense que l'idée, c'est de garder suivre tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui sans vous inquiéter trop du moment, de l'horaire de votre téléchargement. Est-ce que aussi c'est possible qu'on puisse obtenir beaucoup de public dans notre pays, et si on veut toucher plus de public d'autres pays, par exemple, qui sont en ligne à un autre moment de est-ce que ça joue aussi? En fait, je pense que ça a plus à voir avec ce que les gens recherchent et veulent voir plus que quand vous les publiez. Et rappelez-vous que tout ça prend du temps pour être vu, surtout avec les shorts, avec les vidéos courtes. Il faut être patient, ça prend du temps pour être découverte. Donc ne vous découragez pas si vous publiez quelque chose et que vous n'êtes pas, ça prend un petit peu de temps avant d'être vu. Ouais, j'ai vu des vidéos qu'on a publiées il y a un an et puis qui ont refait surface. Ouais, je fais ça tout le temps, comme des choses qui ont été cachées dans les archives et puis qui ont, c'est devenu pertinent à nouveau et qui refait surface. Donc ça parle beaucoup de comment les plateformes marchent et comment qui utilisent les choses pertinentes.
Quels sont les créateurs que vous connaissez qui ont des super vignettes et qu'on peut regarder comme exemple? Bon, je dirais certainement tous les exemples que nous avons mentionnés avec les différents formats des vidéos, il n'y a personne que je dirais, oui, il faut absolument suivre cette personne-ci, mais je pense Johnny Abrahams et Claire sont des indépendants qui ont créé un business durable. Donc, je regarderai dans leur chaîne globalement le contenu, le vignette, voir ce qu'ils ont à dire, et je suis sûre que vous allez beaucoup apprendre de juste regarder leurs vidéos. Je regardais en France Hugo Décrypte. Oui, je pense qu'il fait un super bon travail parce qu'avec les vignettes, on comprend les différents types de contenus qu'il offre. Donc, il a les actualisations de tous les jours. Et je crois que les vignettes sont très faciles de voir visuellement ce que nous attend. Et c'est ça ce que moi je regarde. Oui, Hugo est un super exemple pour ça. Comment peux-je décider quel est le contenu que je dois créer d'abord si je n'ai pas encore des analytics sur YouTube? Waouh, quelle question difficile à répondre. Mais ce que vous pouvez faire, c'est regarder les tendances sur Google. Regardez quels sont les sujets ou les mots-clés en tendance, parce que cela peut vous donner un point de départ pour comprendre l'intérêt d'un possible public cible et d'aussi être relevant avec le sujet d'actualité. Je dirais aussi, concentrez-vous sur ce que vous faites comme étant journaliste. Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce qui vous passionne et vos intérêts? Et comme ça, vous pouvez être plus cohérente si votre passion est alignée avec le sujet. Et après, vous pouvez regarder aussi quelles sont les tendances et les intérêts de l'audience. Oui, je suis d'accord. Je crois que c'est très important d'avoir une voix authentique sur la plateforme, encore plus que n'importe aucun des autres éléments. Vous voulez voir le vous réel. Donc, être vous-même et identifier qui vous êtes comme marque, c'est très important. Et après, 100%, vous pouvez prendre ça comme point de départ et voir quels sont les sujets qui vous intéressent. Il y a beaucoup de bruit. Donc, c'est important de voir comment vous pouvez vous identifier. Est-ce que c'est possible de publier trop et trop souvent? C'est une question que j'entends beaucoup. Il n'y a pas une règle spécifique pour dire hein, ne faut pas publier plus de cette quantité de vidéos. Les créateurs, beaucoup, ont des questions sur la saturation sur la chaîne, mais je crois que la question plus grande ici ou plus importante, qu'est-ce qui est réalistique pour vous? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous espérez créer et publier 5 vidéos par semaine et vous travaillez tout seul? Comme moi, je pense que toi, tu te sentis peut-être assez comme ça aussi. Et quelles sont vos ressources? Est-ce que vous avez une équipe qui vous aide avec l'édition? Est-ce que vous passez toute la nuit debout pour une des nuits blanches pour faire l'édition de l'idée? Donc, comprendre quelles sont les ressources et créer un objectif réaliste, c'est important pour créer du contenu de qualité. Je ne vois pas de problème de publier trop, mais je pense que dans la plupart des cas, ce n'est pas réaliste de publier si tant de vidéos. Donc, on recommande de regarder un peu en arrière et voir quels sont les contenus que vous faites dans la salle de... Et vous ne pouvez pas embêter les gens parce que vous faites tant de vidéos. Bon, je serais vraiment surprise s'il y a quelqu'un qui peut vraiment publier tant de contenus. Bon, donc par exemple, une cadence de tous les jours, ça marcherait? Oui, si ça marche pour vous et si ça vous permet de créer un contenu de qualité et que votre public interagit et est engagé, oui, vous pouvez regarder aussi les analytiques pour voir ce qui se passe, qu'est-ce que les gens pensent du sujet, est-ce que vous avez peut-être besoin de changer de sujet? Voilà, une question pour moi. Ah, voilà. Quels sont quelques outils de production que vous recommandez? Bon, oui, je vais être très honnête. Je ne suis pas éditrice et au début, j'ai vraiment essayé d'éditer mes propres vidéos. Et je crois que toutes les personnes qui le font ça professionnellement auraient honte. Et ça me prenait beaucoup de temps. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps précieux. Au lieu de faire du travail original et de travailler de journaliste. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans un éditeur. Et ça m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai utilisé Descript pour des éditions très courtes, par exemple les éditions sociales, la version de base est gratuite. C'est facile pour charger la vidéo et vous voyez le texte sur la gauche et vous pouvez couper les vidéos sur la gauche et cela, vous pouvez le faire avec la vidéo et ça courte la vidéo. Donc c'est très facile pour des longues vidéos d'interview pour ne pas utiliser un autre type de format. Voilà, ça c'est peut-être l'outil, le meilleur outil que j'utilisais. Après, j'utilise Canva pour les vignettes. Tout ce qui le permet de faire des choses plus simples, qui est intuitif et qui vraiment raccourcit le temps de production. Je crois que c'est un très bon conseil de donner à nos spectateurs. C'est chercher de l'aide quand vous en avez besoin. Déterminer quels sont vos points forts et vos points faibles. Et peut-être ne pas essayer de faire tout vous-même. J'ai aussi demandé à quelqu'un de faire les animations pour moi parce que j'ai créé que si vous voulez avoir une animation de grande qualité, le point de vue journalistique était lié, mais comment le transmettre au public pour que eux ils puissent comprendre que ça vaut le coup de le regarder. Pour moi, c'était un grand investissement aussi. Super conseil. Voilà, il y a encore plein de questions qui arrivent. Tu as mentionné le podcast. Et comment peut-on se lancer avec ces formats? C'est une très bonne question. Je pense qu'on va la répondre dans quelques semaines pour rentrer un peu plus en détail et pour plonger plus dans les détails. Je crois que broadcasting est vraiment une section qui est en train de grandir. Si vous avez un podcast sur une autre plateforme, il y a certainement une opportunité et on vous invite à charger le contenu si vous avez juste l'audio ou même si vous avez une vidéo. Je crois. Bon, encore une question. Comment peux-je trouver des bonnes idées étant donné que ça me prend beaucoup de temps de faire les vidéos? Bonne question, surtout quand on pense au contenu des infos. Et beaucoup de fois, les vidéos sont plutôt réactives. Je crois que si vous avez quelques idées du point de vue du format sur lequel vous voulez baser votre chaîne, pas toutes les vidéos doivent être réactives. Je crois qu'un bon exemple est les vidéos explicatives. Et cela vous permet d'avoir une idée, un sens de ce qui intéresse les gens. Et vous pouvez aussi regarder en détail les différents formats, les interviews, par exemple. Ça, c'est facile de planifier d'avance. Si vous savez que vous allez peut-être faire un interview, vous pouvez aussi préparer la stratégie. Mais avez peut-être une idée, un sens général du contenu. Vous voulez commencer avec le contenu vedette, hebdomadaire, des shorts. Et après, vous pouvez voir un peu plus en détail quel est votre objectif. Donc, il s'agit vraiment de ça. Est-ce que vous vous concentrez sur la politique, sur l'environnement? Ou je crois que c'est impossible de tout faire. Je crois qu'il y a assez d'informations pour se concentrer. Il y a assez de contenu durable. Et il y a aussi d'informations aussi pour faire une vidéo tous les jours. Donc, vous pouvez utiliser aussi votre temps pour rechercher plus d'histoires. Malheureusement, on n'a plus de temps. Et c'était vraiment un plaisir de passer du temps avec vous tous. Dans la prochaine séance, vous pouvez aussi, pour comment vous allez définir votre marque. Allez noter votre calendrier pour le mercredi de novembre. S'il vous plaît, vous devrez aussi prendre 2 minutes pour remplir l'enquête. Ce sera très utile pour nous. Vous pouvez trouver l'enquête dans le panneau d'engagement à droite ou sur la page d'enquête dans le menu de navigation à gauche. Merci encore de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci Nicolette de nous avoir aidés avec tous ces détails et tout ce que tu as partagé avec nous. Et merci pour tous les conseils que tu as partagés avec nous pendant les prochaines différents ateliers. Vous serez rejoints par d'autres créateurs d'actualités indépendants ainsi que par d'autres experts de YouTube. Il y a beaucoup de choses à venir. Profitez du voyage. En attendant, restez en contact par le chat et j'espère que vous viendrez nous rejoindre dans 2 semaines à nouveau. Au revoir.